maîtrise, bravo. Monsieur Gratfouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier.
Je suis anarchiste. Nous allons repeindre la lit, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Il est donc 19h passé de 2 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios. Vous retrouvez comme tous les jours de la semaine le Canu Info. Cette semaine, c'est donc jeudi. Enfin, ah. Aujourd'hui, c'est jeudi, pas la semaine.
C'est bien, ça commence bien, je pense, pour ce
avec
cette deuxième émission.
Delphine.
Et bonsoir Laurent.
Et voilà, et nous allons donc ouvrir ce Canu Info sur un ouragan. Alors j'ai hésité à mettre le morceau d'une princesse connue. Comme un ouragan.
Super, je vais avoir ça dans la tête maintenant pendant 4 jours. Merci beaucoup.
Mais je me suis dit que ça allait être un petit peu too much. Je sais, mais il va y avoir pas mal de références météorologiques puisque on peut quand même dire assez facilement que c'est comme un ouragan que les phénomènes météo et autres catastrophes naturelles envahissent les médias dominants dès qu'ils apparaissent. Cela permet à ces médias de laisser des informations finalement ne demandant que peu d'analyse, avec souvent très peu d'implication des êtres humains en tant que responsables de ces phénomènes météorologiques. Même pour les tempêtes et autres phénomènes climatiques extrêmes, il est vrai, impossible d'y associer les dérèglements climatiques liés aux activités humaines en ne parlant que du phénomène en cours, puisqu'il y faut une analyse scientifique réclamant des études à grande échelle pour comprendre les impacts des activités humaines. Donc du coup, on ne fait dans les médias dominants que constater les dégâts occasionnés par toutes ces catastrophes naturelles et ces phénomènes météorologiques divers et variés. Du coup, c'est quand même de l'information facile, passive, sensationnelle, impressionnante, mais qui n'a que très peu d'enjeux, très peu d'impact politique, très peu de matière à réflexion. Cette facilité journalistique qui ne concerne pas Radio Canu semble masquer quand même soit une fainéantise de la part des journalistes, soit une incompétence de traiter les vrais sujets. Comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, hein, où l'omniprésence de l'ouragan Irma phagocyte tout le reste des informations. Et pourtant, des ouragans autres que climatiques, nous en subissons. Ainsi, l'ouragan de la réforme du Code du Travail, que le Conseil constitutionnel a validé aujourd'hui sans aucune réserve, nous est bien arrivé en pleine figure. Et nous espérons quand même qu'un ouragan social va lui aussi émerger. Ce sera peut-être à partir de mardi prochain, ce sera le 12 septembre, lors de cette première journée d'action à l'initiative du syndicat CGT, suivi par quelques autres comme Solidaires, la FSU, la CNT, mais au final pas grand monde quand même. De même, c'est sûrement l'équivalent d'une tempête tropicale qu'ont reçu aujourd'hui les salariés de GMS lorsqu'ils ont appris la reprise de leur entreprise par GMD. C'est le tribunal de commerce de Poitiers qui a donné l'information. Alors ça signifie vraisemblablement que seuls 120 emplois vont être sauvés et que 157 vont donc disparaître. Mais peut-être n'est-ce rien par rapport au tsunami social que nous promet ce gouvernement avec les futures réformes des retraites, du SMIC, du salaire minimum, et de la modification, voire de la disparition du statut des fonctionnaires ou de certains fonctionnaires. Bref, la météo sociale est pleine de nuages, d'intempéries, d'orages, de grêles et autres calamités. Et ce Canu Info va en faire le tour. En vous parlant d'abord un petit peu de Birmanie, un petit peu beaucoup de peine de mort, un petit peu de Corée du Nord.
Enfin, beaucoup. Excusez-moi, mais je vais prendre beaucoup d'espace sur la Corée du Nord.
Un petit peu de pauvreté en France, pour resituer un petit peu les problèmes et les enjeux. On va parler aussi de culture business avec...
Monsieur Besson.
Voilà.
Que Luc, de son prénom.
Que nous ne pas toujours, voire jamais dans notre cœur. Monsieur Colomb. Autre personnage apparaîtra peut-être si nous avons le temps dans ce Canu Info. Enfin voilà, on terminera peut-être avec autre chose, ça dépendra du temps qu'il nous restera. Nous allons donc commencer avec la Birmanie. Alors la Birmanie, ça fait des semaines qu'il y a des soucis. Mais aujourd'hui, je vais essayer de faire un petit bilan des réactions par rapport à la Birmanie. Alors ça fait deux semaines que la violence a passé un nouveau cran, puisque 125 000 membres de cette communauté ethnique musulmane qui s'appelle les Rohingyas, on prend plein la gueule, notamment 125 000 ont fui. Alors notamment vers le Bangladesh, suite à la réaction, une mobilisation de milices, on va dire, de Rohingyas contre les exactions du gouvernement, et c'est voilà, ils se sont fait bien massacrer. Alors aujourd'hui, l'Inde a dit officiellement qu'elle refusait d'accueillir ces Rohingyas. Il faut dire que Monsieur Modi, le premier ministre d'extrême droite religieuse bouddhiste, qui dirige l'Inde, est en visite en Birmanie, donc il a un petit peu discuté de ça. Alors ailleurs, qu'en est-il ? Alors ça bouge un petit peu dans les pays musulmans. On a vu notamment qu'en Indonésie, en Malaisie, au Pakistan, en Tchétchénie, des manifestants étaient descendus dans la rue pour manifester leur soutien aux Rohingyas. Alors, c'est instrumentalisé, et pour preuve, à Grozny, donc Grozny c'est la capitale de la Tchétchénie, c'était lundi dernier, et plusieurs milliers de personnes, alors d'après les autorités, 1 million, ont manifesté devant la principale mosquée de la ville, avec des cris du style « arrêtez le massacre », etc., etc. C'est super récupéré par le dirigeant dictateur tchétchène, Ramzan Kadyrov, qui a lui aussi incité tout le monde à se bouger. Notamment, il a critiqué pas mal les médias russes, qui, dit-il, je vais le citer, « Quand des explosions et des tueries se déroulent quelque part en Europe, nos médias sont immédiatement sur la brèche, mais quand plusieurs milliers de musulmans sont tués en quelques jours, tout le monde garde le silence. » Alors, évidemment, sur ce point-là, le dictateur Kadyrov a raison. Et notamment vis-à-vis des médias russes, mais on peut parler aussi des médias internationaux et français et européens qui ont un petit peu la même attitude. Alors la question qui se pose, pourquoi Kadyrov d'un seul coup il se mobilise ? Parce que alors quand ses copains russes, puisqu'on rappelle qu'il était placé par les Russes et soutenu par Poutine, quand ses copains russes ont bombardé les musulmans sunnites à Alep, il a rien dit. Et pourtant les Tchétchènes sont sunnites aussi. Ah, mais là, en fait, il place des pions, il se positionne en soutien des musulmans russes, enfin qui sont présents dans toute la sphère d'influence russe. Hein, il y en a surtout du côté de la Tchétchénie et puis des régions proches de l'Asie. Et c'est un calcul politique, mais c'est un calcul politique qui a marché puisque le gouvernement de Moscou et Poutine, pour la première fois, a voté une résolution condamnant la Birmanie, ce qui n'était jamais arrivé avant. Donc finalement, ce petit dictateur-là, il est arrivé à faire bouger la position de la Russie sur la Birmanie. Et le responsable russe, hein, à l'ONU, s'est même exprimé en demandant à la Birmanie d'arrêter et de reprendre le contrôle de la situation. On ne sait pas bien ce que ça veut dire, mais en tout cas d'essayer de calmer le jeu. Alors, dans d'autres pays où les musulmans sont très importants, notamment en Indonésie, il y a eu des manifestations. Alors, c'est très instrumentalisé d'ailleurs par des musulmans extrémistes qui ont lancé des manifs pour déstabiliser aussi l'Indonésie. Du coup, la plus grande organisation musulmane indonésienne est remontée au créneau en disant qu'il fallait arrêter d'instrumentaliser les choses, soutenir les Rohingyas, mais ne pas déstabiliser le pays. Bon, grosso modo, ça fout un peu l'ouaille dans certains pays musulmans qui se solidarisent avec les Rohingyas pour des raisons religieuses. Bien sûr, alors qu'on attendait que tout le monde se solidarise pour des raisons humanitaires tout court, et ben c'est pas le cas, hein, c'est sûr. Alors vous allez me dire... à la tête du pays, il y a quelqu'un de célèbre, il y a Aung San Suu Kyi, donc qui a été élu il n'y a pas bien longtemps. Alors pour l'instant, elle dit pas grand-chose. Elle se compromet beaucoup avec l'armée, il faut quand même le dire. Ça fait 2 ans qu'elle est au pouvoir. Son bilan, quel que soit le domaine d'application, il est ultra faible. Alors, on se disait au début qu'elle essayait d'amadouer un petit peu les militaires, et c'est pour ça qu'elle ne se positionnait pas trop. Mais, car il y a un énorme mais, elle a réagi récemment, et elle s'est positionnée du côté de l'armée, en rappelant, ou en appelant, en disant qu'il y avait de la manipulation, alors c'était hier qu'elle l'a dit, qu'il fallait arrêter cette désinformation sur la crise des musulmans Rohingyas, pour reprendre ses propos. Alors en fait, elle fait référence à ce qui s'est passé cet été, fin août, lorsque le vice-premier ministre turc a publié 4 photos sur Internet de massacres en Birmanie. Il s'est avéré que ces photos étaient des faux. Alors il a retiré les photos, ce qui n'enlève rien à la réalité des massacres. On a des images, hein, notamment des photos satellites de Human Rights Watch, où on voit la région avec les villages entièrement brûlés. Donc on voit pas les corps des gens, mais on voit les villages entièrement brûlés, donc on comprend que la population ait été obligée de partir. Donc voilà, mais elle réutilise ce prétexte des 4 pauvres photos fausses pour dire qu'il y a de la propagande et grosso modo, il se passe pas grand-chose. Et elle remet une couche en disant que c'est de la faute à l'armée Rohingya du salut de l'Arakan. Donc c'est ce fameux groupe qui a attaqué les forces militaires birmanes il y a 15 jours et qui a déclenché un peu une nouvelle escalade de violence. Ce petit groupe, cette petite milice, ils sont pas nombreux, ils ont des bâtons et quelques armes blanches. Et ils sont là en résistance par rapport au massacre qu'il y a eu les semaines précédentes, hein, ou les mois précédents. Donc voilà, elle est vraiment hors des clous. Alors, ça a fait réagir un petit peu. Alors en Europe, les États disent pas grand-chose, mais il y a quelqu'un qui a eu un prix Nobel de la paix en 2014, qui est une jeune Pakistanaise qui avait été victime des talibans. Elle s'appelle Malala Yousafzai. J'espère que je prononce pas trop mal. Elle a dit, je cite, Ces dernières années, je n'ai cessé de condamner le traitement tragique et honteux infligé aux Rohingyas. J'attends que ma collègue prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, fasse de même. Bon, elle n'a pas réagi, elle se fout de sa collègue prix Nobel de la paix. Donc voilà, donc l'Europe, on ne dit pas grand-chose, les États-Unis, pas grand-chose. Grosso modo, le massacre va pouvoir continuer allègrement, surtout que l'Inde, qui a déjà accueilli des réfugiés par le passé d'autres pays autour, hein, où il y avait des problèmes ou des massacres, a décidé de fermer ses portes. Donc voilà, la situation reste ultra difficile pour cette minorité birmane. Face, on rappelle, c'est un conflit religieux avant tout et ethnique, instrumentalisé par les bouddhistes, hein, qui sont au pouvoir. Aung San Suu Kyi est descendante, hein, et fait partie de cette communauté bouddhiste majoritaire en Birmanie qui impose sa loi finalement à tout le monde et de manière violente.
Alors on va parler des États qui assassinent, hein, qui pratiquent donc la peine capitale, la peine de mort, et on va commencer avec les États-Unis d'Amérique, grand pays. Oui. Démocratique qui assassine beaucoup.
Voilà, tout à fait. La démocratie n'est pas incompatible avec les massacres. On va parler du Texas. Alors c'est le pire, hein, on rappelle. Hein. C'est l'État des États-Unis d'Amérique qui assassine le plus officiellement. Et y a un point positif au dernier ouragan, l'ouragan Harvey. Puisqu'il devait tuer un condamné à mort, c'était aujourd'hui, ça devait avoir lieu, ce jeudi 7 septembre. Il s'appelle Juan Castillo, et ils ont repoussé son exécution. Alors vous allez me dire, il a gagné quelques semaines, quelques mois, puisque c'est repoussé au 14 décembre, mais c'est toujours ça de gagner. Bon, il a une vie de merde, parce qu'il est dans le couloir de la mort, mais voilà, il y a quelqu'un qui verra peut-être de manière positive l'arrivée de cet ouragan, Harvey, ou qui en a peut-être marre aussi d'attendre dans le théâtre, dans le couloir de la mort, on ne sait pas bien. Mais voilà, comme quoi un ouragan peut perturber les assassinats de l'État texan. Bon, ça ne les remet pas en cause, hein, puisqu'ils vont recommencer donc à partir du 14 décembre.
Oui, il faut rappeler que Harvey a fait évacuer une prison. Ils ont dû faire déplacer des prisonniers, puisque entre maison et prison, l'ouragan, il s'en fout, hein, il ravage tout le monde.
Alors, un peu avant, c'est-à-dire début septembre, fin août, on a Yves Crushton, qui vient du Luxembourg, qui est le rapporteur général au niveau de l'Europe, hein, sur l'abolition de la peine de mort, qui s'est énervé face à l'exécution qui a eu lieu il y a quelques jours, en Floride, de Mark James Hazay, qui était condamné pour un double meurtre. En fait, ils ont utilisé un médicament, un cocktail, on va dire, de médicaments et de produits qui n'avaient jamais été utilisés. Ça s'appelle les Tomidate, ça remplace le midazolam qui était déjà très controversé. A priori, ça se révèle très douloureux, sévères irritations, brûlures. On rappelle que dans la Constitution américaine, il est interdit de torturer. Donc, si on doit tuer, si la justice doit tuer quelqu'un, elle doit le tuer sans souffrance. A priori, c'est pas le cas, ce qui a fait réagir donc le rapporteur général de l'Europe sur l'abolition de la peine de mort, puisque c'est vraiment, il le rappelle, un châtiment horrible, inadmissible du point de vue des droits de l'homme, même si la mort est douce. D'ailleurs, on le rappelle. D'ailleurs, c'est ce qu'il redit lui-même. Il est contre tout court la peine de mort. Mais voilà, la Floride n'avait pas exécuté depuis un petit moment. Ça datait du 7 janvier 2016. Entre autres pour des raisons de problèmes de produits. Et là, ils ont utilisé un nouveau produit qui est a priori douloureux. Et puis, peut-être une bonne nouvelle. C'était fin août. Le gouverneur du Missouri a stoppé l'exécution d'un condamné à mort 4 heures avant l'injection létale. Il s'agit de Marcellus Williams, 48 ans, condamné à la peine capitale pour avoir tué une femme à l'arme blanche lors d'un cambriolage à son domicile en 98. Et il s'avère qu'ils ont fait une analyse ADN de dernier recours et que l'ADN présent sur le couteau, ben c'est pas le sien. Alors du coup ils ont des doutes. Alors ça a beaucoup remué parce que il y a eu plusieurs rebondissements dans l'affaire. La Cour suprême du Missouri avait ordonné de sursoir l'exécution en 2015 pour permettre la réalisation des nouveaux tests, mais elle avait refusé ensuite de stopper la mise à mort malgré les résultats donc de l'ADN et puis des cheveux découverts sur le corps de la victime qui n'étaient pas du tout celui du fameux condamné à mort, assassin présumé. Mais là, avec une mobilisation importante, 200 000 signatures dans une pétition qui a été remise en ligne, qui a été remise au gouverneur, plus l'ADN, et ben voilà, pour l'instant, donc son exécution est suspendue et on espère que le procès va se rouvrir, parce qu'a priori, en plus, même s'il avait tué, il méritait pas la mort, mais en plus, il semble innocent. Et puis finalement, forcément, quand on parle de peine de mort, on parle aussi de temps en temps de la Corée du Nord.
Oui, alors on va plutôt sourire avec ce que les décisions de la Corée du Nord. Une décision quand même prononcée durement puisqu'elle touche deux journalistes sud-coréens et deux chefs des journaux qui les emploient. Alors des journaux qui sont pas vraiment nos amis hein, puisque c'est des journaux conservateurs de droite. Enfin, ça n'empêche pas. Ces quatre personnes ont donc été jugées coupables et sont condamnées à la peine de mort. Par contumace.
Alors, par contumace, parce que heureusement pour eux, ils sont pas en Corée du Nord.
Ils sont pas en Corée du Nord.
Et hein, ils iront pas.
Donc, ça veut dire que par contumace, ils étaient pas à leur procès. Alors, la notion de procès est toute relative en Corée du Nord, bien évidemment.
Dans une belle dictature,
alors, c'est qu'est-ce difficile. Que ces quatre personnes ont fait de mal? Eh ben, elles ont simplement fait la critique, fait des papiers sur l'édition sud-coréenne d'un ouvrage écrit à la base en 2015 par Daniel Tudor et James Pearson, qui sont deux Britanniques. Qui avait donc publié un ouvrage qui s'appelle North Korea Confidential et qui parle en fait de l'arrivée du libéralisme, de l'économie de marché en Corée du Nord et comment ça transforme la vie des Nord-Coréens. Et donc cet ouvrage est sorti en Corée du Sud, ça s'appelle République capitaliste de Corée, un jeu de mots un petit peu facile. Avec, je vous rappelle que la Corée du Nord, moi je dis toujours Corée du Nord, mais je vous rappelle que le vrai nom c'est République populaire démocratique de Corée quand même, hein, quand il faut s'en souvenir. Donc le jeu de mots vient de là. Alors Daniel Tudor et James Pearson ne sont pas visés, même leur éditeur, hein, par cette condamnation à mort. Un ouvrage quand même, parce que Daniel Tudor travaillait pour The Economist, donc forcément en général derrière il y avait du soutien. The Economist avait placé cet ouvrage comme l'un des meilleurs livres de 2015 quand même. Donc ils auraient pu être tous les deux visés par cette condamnation, mais pas du tout. Il y a simplement donc ces deux journalistes et ces deux chefs de médias qui sont donc condamnés à mort. Alors bon, il faut savoir qu'il n'y a pas de possibilité d'appel, la phrase exacte, en provenance des communiqués nord-coréens, hein, les criminels n'ont pas le droit de faire appel et l'exécution sera menée à bien n'importe où, à n'importe quel moment, sans autre forme de procès. Bon, ça doit foutre un peu quand même la pétoche, ouais. Si vous me permettez l'expression. Bon, c'est pas tous les jours que non plus la Corée du Nord va assassiner des gens à...
En Corée du Sud, non.
L'extérieur de la Corée du Nord. Mais quand même, ça le fout de la pétoche, même si quelque part on peut en rire, parce que c'est une de ces grandes encore démarches gueulardes que peut avoir la Corée du Nord. Tu voulais rajouter quelque chose sur cette peine de mort? Alors, ça va nous permettre de continuer avec la Corée du Nord. Alors, j'avais quand même un petit peu envie de revenir sur ce qui se passe au niveau diplomatique avec la Corée du Nord. Avec Laurent, on a eu des débats sur la question. Alors nous, on n'est pas des experts géopolitiques, des experts non plus de la diplomatie internationale. Mais c'est vrai qu'on avait quand même envie de revenir sur ce qui se passe au niveau diplomatique avec la Corée du Nord. Alors là, les présentations du pays voudraient que la Corée du Nord soit ravagée, aride, occupée par des affamés. Cette image, il faut bien le dire, elle doit nous aider quand même à accepter une accélération d'une intervention militaire qui serait pas gênée d'aller sur place. La Corée du Nord nous présente de son côté un pays heureux, riche et dynamique. Alors entre ces deux mondes,
tout est faux.
Oui, ces deux images de propagande, il faut bien se le dire. Mais il est vrai qu'il y a un changement ces dernières années en Corée du Nord. C'est ce que raconte d'ailleurs cet ouvrage. C'est-à-dire qu'entre évidemment la capitale des villages de l'Est ou de l'Ouest et puis les villes proches de la frontière chinoise, il y a bien des différences. On sait que la frontière entre la Corée du Nord et la Chine est poreuse. Donc cette frontière permet une activité économique illégale, certes, clandestine, certes, mais bien existante. Et puis l'État nord-coréen a ouvert la possibilité de petites activités, par exemple un marché à Pyongyang. Donc c'est des activités qui permettent à des familles de dégager un revenu que l'État nord-coréen n'arrive plus à assumer.
Oui, ça permet aux gens de manger. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de famine ou moins, parce qu'on a eu des périodes où ils ne vivaient qu'avec l'aide humanitaire internationale.
Il fallait se souvenir, dans les années 90, effectivement. Il faut savoir qu'il y a des fermes collectives qui ont été démantelées. Alors ça a été redistribué. Ça s'appelle des unités de travail basées sur la famille. Donc en fait, c'est des familles qui ont récupéré individuellement donc l'exploitation de ces terres. Il y a des usines qui peuvent maintenant chercher les fournisseurs et les clients. Donc il y a une ouverture, un capitalisme, je le dis de cette manière parce que c'est rien à voir avec chez nous quand même, mais c'est ce que la Chine a pratiqué au début de son ouverture au libéralisme. Et puis on entend parler d'une petite classe moyenne à Pyongyang, voire carrément une grosse élite qui est en train de s'élargir, qui n'est plus juste liée à la dynastie Kim, mais qui est en train de grossir et qui s'est développée sur les activités liées au commerce intérieur et international. Alors il faut quand même savoir que selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 4 habitants sur 10 seraient sous-alimentés. Donc ce chiffre-là, il faut quand même le garder à l'esprit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut arrêter de voir la Corée du Nord comme un énorme camp type goulag, où tout le monde suce des cailloux. Il faut sortir de cette image-là. Alors, la grande question que nous, on s'est posée, c'est que faire face aux menaces nucléaires de la Corée du Nord? Alors,
on n'a pas de réponse.
On n'a pas de réponse, on va tout de suite vous le dire. Ça, c'est fait. Mais en même temps, au-delà des divergences diplomatiques, personne ne semble avoir de réponse. La Corée du Nord a organisé hier, mercredi, des cérémonies de masse en hommage aux scientifiques qui ont donc réalisé ce magnifique essai nucléaire. On parle donc d'une bombe H. Une bombe H, c'est sérieux. Alors, aucun gouvernement n'a validé cette bombe H.
En fait, on se rend compte que indirectement de la puissance qui est importante. Par contre, savoir le type de bombe à l'uranium, plutonium ou à l'hydrogène, bombe H, on le sait pas vraiment. On se rend compte de la puissance. Par contre,
il y a eu un séisme ressenti en Chine, en Russie. Voilà, ça, la Terre a bien bougé.
A priori, ça, l'impact, il est calculé. C'est 10 ou 20 fois Hiroshima. Donc
c'est pareil selon les pays, le chiffre en kilotonnes n'est pas le même, et c'est exact, c'est à peu près ça. Il faut se souvenir aussi qu'il y a des jolis missiles qui visent le Japon, les États-Unis, la Corée du Sud. On sait que la Corée du Nord a des capacités. Et pour répondre à ça, la Corée du Sud et les États-Unis d'Amérique, qui ont des bases implantées en Corée du Sud, ont déployé aujourd'hui 4 lance-missiles Terminal Height Altitude Area Defense, c'est le fameux TAD, le bouclier américain sur lequel on en avait parlé. Il y avait des manifs qui ont recommencé à Séoul. Alors des manifs à la fois anti-américaines, contre l'impérialisme américain, et à la fois contre la guerre. C'est un peu mélangé, c'est assez difficile à suivre hein, de chez nous, il faut bien le dire. Mais des manifs ont lieu hein, contre ces lance-missiles, contre ce bouclier américain. Mais voilà, ça se met en place encore une fois. Alors, on parle de tas de sanctions. Les premières sanctions dont on parle beaucoup, c'est les sanctions sur l'économie. Elles sont pas nouvelles. Hein, ça fait maintenant quelques temps qu'elles sont mises en place. Et depuis 2006, là, on en est au 8e projet hein, quand même. Les sanctions de l'année dernière, en 2016, étaient les plus importantes. Les États-Unis, associés à la Corée du Sud et au Japon, exigent donc un durcissement de ces sanctions auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis ont proposé hier mercredi leur projet, c'est-à-dire un embargo sur le pétrole destination de la Corée du Nord, c'est-à-dire que la Corée du Nord ne pourrait plus rien recevoir, et empêcher aussi des exportations de son côté. Alors déjà, dans les dernières, il faut se souvenir qu'il y avait un tentative de blocus du charbon en provenance de la Corée du Nord. Mais il faut se souvenir que si Daesh, l'État islamique, arrive aujourd'hui à faire circuler son pétrole, la Corée du Nord a toujours des appuis et arrive aussi à faire circuler son charbon. Donc ça, c'était compliqué à bloquer. Ensuite, il y a la deuxième idée, c'est le gel des avoirs de Kim Jong-un, c'est-à-dire d'essayer de bloquer finalement le pognon du chef numéro 1 de la Corée du Nord. Et puis, la troisième idée, c'est bloquer l'argent, le financement des Nord-Coréens qui vivent à l'étranger. Qui sont estimés à près de 50 000 par l'ONU et qui amènent en fait une source de revenus pour le régime, parce que il faut savoir que ces Nord-Coréens, c'est pas forcément une élite et des diplomates, c'est aussi des gens qui travaillent dans d'autres pays et qui ramènent donc du coup des devises. Alors il faut se souvenir hein, que Monsieur Trump, le big boss des États-Unis d'Amérique, a parlé de feu et de colère face aux provocations nord-coréennes. C'est un langage qui ressemble hein, au langage et au vocabulaire de la Corée du Nord. Hier, il a eu une discussion avec Xi Jinping, hein, côté Chine. Il s'est calmé aussi, puisque du côté des États-Unis d'Amérique, on avait émis l'idée de rompre tous les liens commerciaux avec les pays qui font affaire avec la Corée du Nord, évidemment sans... Très peu de sous-entendus, ça visait qui ? La Chine. On sait que M. Trump, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, a envie de s'en prendre à la Chine, et en même temps, on sent qu'il y a plein de gens derrière qui essayent de le calmer. Donc, il a tenté de là de rebaisser un ton. Les échos qu'il laisse à donner de son côté de cette discussion avec son homologue chinois, c'est que en fait, ils vont s'entendre. Et qu'il y a eu une discussion très très franc et très fort, je le cite. Rien que ça fait peur en fait de la manière dont ils doivent se parler ensemble. L'idée hein, des États-Unis d'Amérique, c'est d'avoir l'isolement complet de la Corée du Nord. Les États-Unis ont demandé un vote dès lundi, mais il y a un problème, c'est la Chine et la Russie. La Chine, qui a longtemps été alliée de la Corée du Nord, elle semble moins l'être actuellement, mais quand même... Oui. Et toujours derrière. Et puis Monsieur Poutine. Monsieur Poutine, lui, a dit qu'il fallait baisser dans le ton. Hein. Il arrive en grand défenseur de la paix internationale. Finalement, ça peut que prêter à sourire vu sa position habituelle. Il a rencontré à Vladivostok lors d'un forum économique le président sud-coréen et puis le premier ministre japonais. Il s'avérait que Monsieur Poutine et ses homologues ne sont pas du tout d'accord. Donc tout le monde est a priori si d'accord sur un point, c'est qu'il faut baisser d'un ton. Par contre, la manière de ensuite réagir face à la Corée du Nord, là par contre, le Japon et la Corée du Sud sont pas d'accord avec la Chine et la Russie, avec Monsieur Poutine. Donc c'est là aussi, c'est comment faire. Il y a un problème diplomatique, c'est qu'on a des voisins qui s'entendent pas. Donc ça pose problème, parce que Monsieur Trump, bien sûr qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il a des missiles qui peuvent viser les États-Unis d'Amérique. On a beaucoup parlé hein, de Guam, hein, de ce territoire un peu particulier, mais il y a des voisins directs et ils sont pas d'accord entre eux. Donc c'est aussi une problématique de comment on fait pour réagir face à l'ennemi, j'y mets des guillemets. Monsieur Poutine estime que c'est un vote trop rapide, si on fait ça lundi, que c'est prématuré, et que les sanctions sont inutiles et inefficaces. Du côté de Pékin et de la Russie, on propose donc un double moratoire, c'est-à-dire qu'en fait, la Corée du Nord arrête les essais nucléaires et balistiques, et que du côté de la Corée du Sud et des États-Unis d'Amérique, on arrête aussi les manœuvres militaires. Il semblerait que de ce côté-là, personne ne soit d'accord et personne ne veut cesser de mettre en place son armement, hein, tout simplement, puisque tout le monde prétend que c'est le moyen d'empêcher l'autre de se faire bombarder. On en est toujours toujours là, hein, soi-disant que l'arme nucléaire, ça va empêcher alors que d'agir.
Personne n'a jamais, même s'ils n'avaient pas l'arme nucléaire, a eu envie de bombarder ce régime communiste rétrograde. Là, il y a d'autres régimes communistes en Asie, le Vietnam, tout ça, ils n'ont jamais été bombardés après les défaites américaines dans les années 70. Du coup, c'est toujours une fausse excuse. Il se maintient au pouvoir à coup de propagande avec son peuple, et ça lui sert à ça avant tout.
C'est ça, c'est exactement ça. Alors en plus, c'est Monsieur Poutine n'a pas tout à fait tort, c'est que il faut savoir que du côté de la Corée du Sud, on s'intéresse beaucoup à l'économie, donc on connaît pas, hein, les chiffres de la Corée du Nord. Par contre, la Banque centrale sud-coréenne calcule chaque année, depuis 1991, les chiffres du PIB du Nord, d'après des informations recueillies soit du ministère de l'unification sud-coréen, soit par des agences de renseignement internationales. Et en fait, l'économie nord-coréenne se porte plutôt bien. C'est incroyable. Alors certes, le charbon, ça a beaucoup baissé. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une industrie du textile à l'international en Corée du Nord. On n'en parle pas beaucoup, mais elle est là. Donc c'est bien pour ça que les États-Unis d'Amérique veulent viser aussi ces secteurs industriels. Parce que là, il y a de l'argent. C'est 30% hein, des exportations, l'habillement quand même. Donc c'est beaucoup. Deuxième source d'exportation après l'énergie. Donc il y a l'idée de viser ça. Mais pourtant, l'économie nord-coréenne progresse, ce qui est assez incroyable, malgré les sanctions depuis 10 ans.
Après, ils progressent en économie en interne, hein, puisque ils partent de pas loin.
Ah bah
donc,
ça.
Du coup,
ça
ils s'équipent un petit peu, petit à petit, le pays se développe. Une classe moyenne est en train d'apparaître. Et c'est cette classe moyenne qui va tirer la consommation. Donc, en interne, et pas du tout à l'exportation, parce que c'est guère possible.
La réalité, c'est par contre le commerce entre les deux Corées a chuté. Il faut se souvenir qu'il y avait le centre industriel de Kaesong, dans lequel la Corée du Sud était implantée.
En Corée du Nord.
En Corée du Nord, oui, évidemment, Kaesong, c'est en Corée du Nord. Donc ça s'est arrêté l'année dernière, mais il faut aussi se rappeler que la Corée du Nord a ouvert les partenariats comme la Chine. Donc il y a des entreprises qui sont, vous savez, des conjointures, hein, là, des trucs où vous avez donc pour que une entreprise internationale, oui, vienne s'installer en Corée du Nord, il faut qu'il y ait des fonds de la Corée du Nord. Ça existe, hein, par exemple sur la téléphonie, sur d'autres secteurs d'activité. Donc il faut arrêter de dire que c'est un pays ermite, isolé, tout fermé, c'est pas vrai. L'autre proposition, hein, qui avait été faite par Monsieur Trump, c'est l'intervention militaire. Mais alors ça, moi je me demande bien ce que ça veut dire. C'est quoi, on balance une bombe type Hiroshima sur la Corée du Nord, mais alors on fait quoi du coup du voisin du Sud, hein, puisqu'on rappelle que Séoul, c'est à 60 km de la frontière quand même. Et puis ça veut dire quoi, des hommes au sol? Alors ça, il n'y a même pas question, puisque de toute façon on sait que là, Monsieur Kim risque d'envoyer pour le coup ses missiles dès qu'il entendra le bruit des pales de l'hélico au-dessus de Pyongyang. Donc là-dessus, on ne voit pas bien cette action militaire, comment elle pourrait avoir lieu.
Ah oui, à moins de le viser directement.
Et alors ça, c'est la dernière solution, évidemment, que nous avons débattu ensemble.
Non, mais il y en a une autre aussi, c'est d'armer et d'aider les opposants.
Alors,
le truc, c'est qu'il
n'y a pas d'opposants.
Il reste pas grand-chose, en fait.
Tu casses un peu mon truc, mais tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que nous, on a discuté ensemble avec Laurent alors, est-ce qu'il fallait tuer le tyran, hein? Oui, tu en rigoles, mais parce que on est venu à se poser la question. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller flinguer Kim? Le problème, c'est que, comme tu le dis, il n'y a pas d'opposition derrière. Donc, il n'y a pas d'organisation. Parce que mettre à mort un individu, même si on l'admet, hein, admettons. Le problème, c'est que comment on fait derrière? Qui va prendre la suite? On est sur un pouvoir militaire. Donc ça veut dire que derrière, avant d'aller flinguer le Kim, il faudrait déjà avoir pactisé avec des militaires, voilà, pour que derrière il y ait une suite, parce qu'il n'y a pas d'opposition civile.
Différente, hein, c'est-à-dire une suite pas le même, parce qu'on a bien vu les dirigeants s'enchaîner, hein, c'est le troisième dirigeant de la Corée du Nord. Ils sont dans la même lignée, alors même s'ils sont en plus dans la même famille. Donc voilà, l'assassiner lui ne permettrait pas à, je sais pas, un militaire ouvert qui serait prêt à faire la transition d'apparaître, puisqu'on ne sait pas s'il existe, le militaire
alors,
ouvert.
C'est ça la difficulté. Alors c'est pour ça que viser économiquement l'élite, mais vraiment quand je parle de l'élite, c'est l'élite militaire extrêmement riche en Corée du Nord, c'était une bonne idée, parce que peut-être qu'ils auraient pu se retourner contre Monsieur Kim, ce qui n'est pas gagné non plus, hein, parce qu'ils ont aussi des avantages à être dans cette position.
Oui, et puis que c'est pas un drôle, il a assassiné il n'y a pas bien longtemps des gens de sa famille ou d'autres militaires en qui il n'avait pas confiance.
Voilà, donc il y a aussi peut-être cette peur aussi de voir effectivement vraiment eux-mêmes être flingués. Donc peut-être que des pays étrangers pourraient jouer sur cette question-là, parce que là on en vient quand même à une solution un peu particulière, c'est quand même d'aller flinguer quelqu'un sur un territoire étranger. Excusez-moi, c'est non, une mise à mort.
Hein, là, ce qui n'est pas possible, bon. De toute façon.
Et puis voilà, effectivement, et qui prend la suite derrière? Pourquoi et comment on fait au niveau diplomatique et international? Donc en fait, pour l'instant, tout le monde semble un peu bloqué. Il y a les solutions économiques, étrangler le pays, c'est bien, mais ça veut dire aussi étrangler la population. Qui va derrière va amener de l'aide humanitaire, encore une fois. Donc on tourne en rond depuis maintenant un certain paquet de temps. Donc on peut toujours dire à la Chine et à la Russie, arrêtez d'aider la Corée du Nord.
Ça serait déjà peut-être.
Ça serait déjà pas mal, mais reste que ça va peut-être empêcher M. Kim de menacer d'autres pays à l'international et de faire joujou avec ses bombes. Mais en même temps, l'isoler, ça veut dire aussi que, comme on sait pas bien si il fait juste ce qu'il veut ou s'il est un peu foufou du cerveau, c'est isoler un foufou potentiel avec un gros jouet qui peut tuer quand même beaucoup de monde.
Alors, oui.
Voilà ce qu'on avait à en dire.
Alors nous allons revenir à un sujet plus terre à terre de chez nous. On va parler de la pauvreté en France. Suite à cette grande décision ô combien égalitaire de M. Macron et de son Premier ministre d'enlever 5 euros à ses riches qui touchent les APL, je vais redonner quelques chiffres sur la pauvreté en France. Pour faire un petit peu une sorte de bilan de l'état de la pauvreté en France, hein, la France est un des pays les plus riches du monde, donc il ne devrait plus y avoir de pauvres. Pourtant, on se rend compte qu'il y a encore pas mal de pauvres. Alors on va parler d'abord de la répartition, parce qu'il y a une belle propagande hein, depuis une trentaine d'années, qui nous fait croire que c'est en banlieue qu'il y a le plus de pauvres. Et donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on va aider les lycées dites en zone d'éducation prioritaire, qu'on leur met moins de profs, qu'on donne plein de moyens depuis plein d'années. Or, en fait, c'est entièrement faux. Ce ne sont pas dans ces zones-là qu'il y a le plus de pauvres. Ce sont dans ces zones où, proportionnellement à la population qui habite dans ces zones, il y a le plus de pauvres au sein de cette population. Mais, au final, quand on regarde la répartition de la pauvreté en France, ces quartiers dits prioritaires représentent 23% de la pauvreté. Et il y a donc 77% de la pauvreté qui est ailleurs. C'est-à-dire qui est finalement dans les villes normales, dans le périurbain hors de ces zones prioritaires, dans les campagnes, un peu partout. Donc en fait, l'idée véhiculée par très longtemps, que l'INSEE a cassé depuis longtemps avec des études, qui dit, voilà, la pauvreté, elle est dans les choses, dans les grandes villes, autour des périphes, dans ces banlieues qui ont été construites d'ailleurs dans les années 60 ou dans les années 70, ben ça s'avère faux. Alors même si dans ces quartiers-là, il y a plus de pauvreté qu'ailleurs, puisque c'est à peu près 42% en moyenne des habitants de ces quartiers-là qui sont pauvres. Mais effectivement, ils ne représentent que 23%. Alors quel est l'intérêt de garder cette propagande? Ben l'intérêt, c'est que ça limite les budgets. Parce qu'on se dit, voilà, les pauvres, ils sont, par exemple, à Lyon, on se dit, ils sont là, à Vaux-en-Velin, à Vénissieux, et c'est tout. Zone prioritaire, alors il y en a d'autres, hein, mais je caricaturise. Et du coup, on met de l'argent là-bas. Mais comme, en fait, les autres, les pauvres, ils sont globalement partout, alors peut-être pas dans le 6e arrondissement de Lyon, mais ils sont partout, et ben les autres, c'est-à-dire les 77% de pauvres, et ben ils ont rien. Et donc, en fait, cette idée de faire croire que tous les pauvres sont dans ces quartiers-là, ben, ça permet de faire d'énormes économies sur les budgets et de pas aider les pauvres. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais rappeler. Parce que ça a été encore instrumentalisé par ce gouvernement qui a mis des moyens dans les dans les classes de maternelle, là, non, peut-être pas de maternelle, CP-CE1, que pour les zones d'éducation prioritaire qui concentrent de la pauvreté. Mais pas toute la pauvreté. Donc voilà, c'était important de le redire. Ensuite, sur l'état de la misère en France, combien il y a de pauvres en France? Alors c'est c'est toujours assez difficile. Il y a plusieurs manières de définir la pauvreté. Aujourd'hui, il y a 2,3 millions de personnes, à peu près un peu plus de 60 millions, hein, 2,3 millions de personnes qui vivent avec moins de 672 euros par mois, ce qui est pas mal. Ça fait quand même beaucoup, je veux dire. C'est pas mal, 672 euros, mais il y a beaucoup encore de pauvres. Alors si on regarde le seuil de pauvreté tel qu'on l'utilise le plus souvent, c'est-à-dire 40% du niveau de vie médian. Alors niveau de vie médian, c'est les gens qui ont ce salaire-là, c'est le milieu. Il y a autant de Français en dessous d'eux que de Français au-dessus d'eux. Ils sont pile au milieu. Donc aujourd'hui, si on définit la pauvreté, et c'est vraiment de la pauvreté pour le coup, 40% de ce niveau médian, ça définit ces fameux 672 euros par mois. Donc 2,3 3 millions de personnes. Alors ça, c'est un premier chiffre à retenir. Ça fait quand même pas 50 pauvres en France, hein, ça fait beaucoup plus. Ensuite, on peut regarder ceux qui touchent les minima sociaux. Il y a 4 millions de ménages en France qui touchent les minima sociaux. Ça représente à peu près 6 millions de personnes, si on tient en compte les conjoints et les enfants. Et donc là, on a un chiffre de 6 millions de pauvres, parce qu'en fait, eux aussi, ils sont pauvres. Il n'y a pas que les 2,3 millions qui sont en dessous du 672. C'est ces gens qui ont droit et qui touchent les minima sociaux. Ils le font pas par, ils les touchent pas pour le plaisir, en fait. Donc là, on serait plutôt aux alentours des 6 millions de pauvres, hein. Alors, en comptant les enfants issus de ces familles-là. Bon, après, on a des gens qui sont... On peut regarder un peu dans le détail. Tout le monde n'est pas comptabilisé dedans, hein, mais... Par exemple, on a 900 000 personnes qui n'ont pas de domicile personnel. Alors vous allez me dire, mais d'habitude, on dit qu'il y a 10 000 personnes à peu près qui dorment à la rue. Oui, il y a 10 000 personnes à la rue en permanence, mais il y a 900 000 personnes qui n'ont pas de domicile personnel, dont 600 000 sont hébergées chez des tiers. Et dans ces 600 000, 70 000 sont hébergées par des gens qu'ils ne connaissent pas, par des amis, enfin qu'ils ne connaissent pas, par des amis, pas par des liens familiaux. Parce qu'une bonne partie de ces 900 000, de cette pauvreté, des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir leur propre logement, c'est des gens qui vivent dans leur famille, chez leurs parents, en fait, et qui ne peuvent pas en partir parce qu'ils sont trop pauvres. Hein. Donc ça, c'est un chiffre important, c'est donné par la Fondation Abbé Pierre. Voilà. Alors, si on regarde sur la bouffe aussi, eh ben là, on apprend que 2 millions de personnes en France ont recours à l'aide alimentaire. C'est le chiffre officiel. En tout cas, c'est les 2 millions de personnes qui sont bénéficiaires officiellement des 5 000 associations et organismes qui distribuent des repas. Donc, il y en a sûrement un peu plus. Mais il y a au moins quand même 2 millions de personnes qui mangent pas correctement et qui ont besoin d'aide pour manger. Grosso modo, hein, voilà, la pauvreté en France, c'est entre 2 millions et 6 millions de personnes suivant où on met le curseur. 6 millions, ça veut dire qu'il y a 10% de la population qui est pauvre. Et les 2 millions, c'est les très pauvres, on va dire. C'est un peu moins, mais bon, voilà. C'est pas un combat gagné. Et enlever 5 euros à ces pauvres, eh ben, c'est important. Et bizarrement, tout ce que fait le gouvernement, pour l'instant, il n'y a rien pour les pauvres. Hein. Ou alors on cible, on fait des choses un petit peu comme ça, on donne quelques miettes, ce qui est le cas pour ces aides aux zones d'éducation prioritaire sur les CP et les CE1, mais c'est tout. Alors, et le dernier impact que je voulais donner sur la pauvreté, c'est sur la scolarité. On sait, on a toujours idée, alors il y a d'autres impacts, hein, je vais pas tous les faire. Sur la scolarité, c'est intéressant parce qu'on est en début d'année, c'est la rentrée, tout le monde a parlé que de l'école, c'était super, super, ou pas bien, je sais pas. Mais bon, on donne assez peu de chiffres sur les disparités sociales. Alors, les jeunes de milieu ouvrier représentent 11% des étudiants de l'éducation nationale. Donc des étudiants, c'est après le bac, 11%. Ça fait pas beaucoup quand même. À savoir qu'entre 18 et 23 ans, il y a à peu près 33% de ces jeunes qui sont issus du milieu ouvrier. Donc très peu font des études. À l'opposé, hein, les enfants de cadre supérieur représentent 30% des étudiants, alors qu'ils représentent 17% de cette tranche d'âge. Alors les écarts grossissent encore suivant le type d'études. Finalement, quand on regarde, il y a un seul type d'étude qui est émancipateur pour les enfants de milieu populaire, c'est les Bac+2, le BTS en premier et un peu moins les IUT, où on a le même taux d'ouvriers et d'enfants issus de cadres supérieurs que dans la population de la tranche d'âge. Donc là, et du coup, on arrive à faire progresser tout doucement, comme c'est le même taux et que c'est égalitaire. Du coup, ça progresse tout doucement. Ailleurs, c'est la catastrophe. Hein, l'université, c'est 3 fois plus d'enfants cadres sont scolarisés à l'université en études que des enfants d'ouvriers. Alors, quand on parle dans les filières un peu prestigieuses comme les écoles normales, par exemple, 20 fois plus d'enfants de cadres supérieurs que d'ouvriers. Bon, voilà, c'est une catastrophe. Donc l'inégalité, elle se reproduit encore. Vous allez me dire, on le savait déjà, ces chiffres ont été mis à jour. Ils datent de cette fin d'année, cette fin d'été pour une grande partie d'entre eux, ou un peu plus loin sur la pauvreté en général. Et voilà, et c'est contre ça qu'il faut agir. C'est pas les patrons et les riches qui ont besoin d'aide, qui ont besoin qu'on change leurs impôts, etc. C'est bien tous ces gens-là qui, finalement, vont naître dans des milieux pauvres, grandir dans des milieux pauvres, faire des métiers qui vont pas leur gagner beaucoup d'argent parce qu'ils n'ont pas accès au bon niveau d'études, et la reproduction sociale, telle qu'on connaît en sociologie, va continuer ad vitam aeternam Voilà, donc c'était juste pour refaire un petit point, parce que ça m'avait énervé cette focalisation sur les zones d'éducation prioritaire et qui ne touche, je le rappelle, que 23% des pauvres en France.
Alors, on va parler de culture business, on va parler business plan.
Ah ouais, un peu ouais. De business.
Alors, on va parler de Valérian et la cité des mille planètes, le film réalisé par Luc Besson, financé par Europa Corp, société.
Attends. C'est Valérian et Laureline.
Ouais.
Ouais, parce que.
Alors, je te laisse deux secondes. Alors, je n'ai pas vu le film.
Mais dans la BD.
Oui,
dans le film aussi.
Moi, je dis, je n'ai pas vu ce film parce que, tout simplement, Luc Besson est un réalisateur que je n'aime pas. Un producteur dont j'apprécie assez peu les films. Toi, tu as vu ce film. Très rapidement, je te laisse à peu près.
Non, mais
30 secondes pour dire ce que tu en as pensé.
Il n'y a aucun intérêt au film.
Je sais que tu es un grand fan de la BD.
Voilà. Non, mais c'est ça.
Un grand fan.
La
donc
BD,
tu as été déçu.
Voilà, bah, c'est simple. Si vous voulez, si vous aimez la BD Valérian, vous aimez Star Wars, parce que Star Wars, c'est toutes les bêtes de Star Wars sont inspirées de la BD de Valérian. Hein. Là, on retrouve les personnages, mais les personnages humains, notamment Laureline et Valérian sont juste ridicules. À la fin, il la demande en mariage, elle dit oui. Enfin, il n'y a pas ça. C'est neuneux. Il y a tout. Enfin, non, c'est. Le film est esthétiquement moyennement réussi, notamment le début qui fait penser à un autre film d'un réalisateur dont j'ai perdu le nom. Oui, un truc où tout est bleu, là. Tu te rappelles de ce film ?
Avatar.
Avatar, voilà. Bon, bref, non, il n'y a aucun intérêt à ce film. Esthétiquement, culturellement,
alors,
cinématographiquement.
Vous aurez compris que ce n'est pas artistiquement dont je vais parler, puisque je vous ai parlé de business plan pour ouvrir ce sujet. Monsieur Besson est un réalisateur, producteur, scénariste qui construit des modèles économiques basés à l'international, mais qui veut en même temps profiter des petits sous du pognon français, est énervé il y a quelques jours sur un site brésilien lors d'une interview sur un site qui s'appelle Cinépop, où il explique qu'il en a marre des films de super-héros, parce qu'au début c'était bien, mais que maintenant il y a plein de suites et que c'est chiant. Je suis d'accord avec lui, hein, c'est vrai qu'on en a eu plein, mais c'est quand même marrant pour un gars qui a fait... et qui a proposé soit en tant que réalisateur, scénariste ou producteur, Taxi machin, on
taxi
en est au 5.
2, Taxi 3.
Taxi 5 est attendu pour 2018. Les Taken 1, 2, 3. Le Transporteur 1, 2, 3.
Il aime les suites aussi.
Arthur et les machins, je sais pas combien il y en a eu aussi. Donc voilà, il aime bien les suites. Et il avait bien prévu un business plan pour Valérian en plusieurs parties. Mais vous allez le voir, c'est mal barré pour qu'il y ait des suites. Donc je le trouve un peu culotté, voilà, de s'en prendre aux suites de ces super-héros Marvel, en l'occurrence, puisque c'est ça qu'il attaque. Ils sont les prix aussi à Captain America.
Ouais, alors,
il a tout à fait le droit.
Il a le droit.
Sauf qu'il ne connaît pas la réalité du comics. Enfin,
et puis on peut dire quand même, contrairement à ses films à lui, Captain America, il va combattre les nazis et il gagne contre les nazis. Alors que dans aucun film de Besson, ses héros gagnent contre les nazis. Alors c'est un peu facile de critiquer Captain America.
On
fait une blague.
Bon, enfin bon, du coup, on a l'impression dans cette interview qu'en fait il ne sait pas bien de quoi il parle et c'est un tout petit peu dommage. Donc en tout cas, ce film a fait un bon démarrage en France quand il est sorti fin juillet. Il s'est même plutôt bien placé finalement. Il a cumulé jusqu'à présent plus de 3 800 000 entrées en France. Donc c'est pas si mal. Hein. Mais il faut savoir que c'est quand même un film qui a coûté 197 millions d'euros. C'est le plus gros budget en France et en Europe pour un film, tout simplement. Donc on attendait quand même des entrées très importantes. Et évidemment, ce n'est pas un film pour la France, puisque c'est un film qui a été tourné en anglais.
3 millions
pour le marché international.
Ça fait pas la somme qui.
Non, ça fait pas la somme. Alors évidemment, il avait visé les États-Unis d'Amérique et la Chine. Pour les États-Unis d'Amérique, c'est raté. Alors, il faut savoir que le film s'est fait ramasser par la critique, que c'est un territoire où il est difficile de positionner ses films et qu'en plus de ça, ça a été un très mauvais été pour tous les films aux États-Unis d'Amérique dans les salles de cinéma. Donc il s'est ramassé à la fois par la critique, à la fois par les entrées. Donc, il s'était dit après ce mois, bon, de toute façon, je vais en Chine après. Bon, il va au Japon, en Corée du Sud, en Russie. En Allemagne, le film a bien marché. Bon, voilà, au Canada, tout ça, tout ça. Sauf que la Chine, c'est le gros
marché.
Il y a eu des belles affiches. Hein,
dans le métro, partout.
Dans le métro. Voilà, il y a eu un gros coup qui a été mis là-bas. Il faut savoir qu'en même temps, le film est en partenariat avec un distributeur chinois que, de toute manière, on va y revenir au port et je vais y arriver, Europa Corp, est détenue à 28% par une société chinoise. Le truc, c'est qu'il a très très bien démarré le film en Chine, et puis à la deuxième semaine, pouf, il s'est cassé la figure. Il a perdu 78% de ses entrées en quelques jours. Donc en fait, c'est pas non plus sur la Chine que le film va pouvoir faire des entrées, parce qu'il faut quand même bien rentabiliser hein, ces 197 millions d'euros. Alors certes, le film avait été vendu, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'un film, il va pas coûter ce prix-là à la société de production, puisqu'il est pré-vendu à des télés, pré-vendu à l'international. Donc il y a de l'argent qui est déjà revenu hein, à la société Europa Corp. On est bien d'accord. Simplement, il y a beaucoup d'argent qui ont été mis pour vendre dans le marketing ce film. On parle de 100 millions de dollars à travers le monde, 50 à 70 millions rien que pour les États-Unis d'Amérique, là où le film a fait un flop. Et là, pour le coup, la société de Luc Besson, elle est partie prenante hein, dans une partie de cet argent marketing, puisque cette société distribue le film dans un certain nombre de pays. Donc, il y a les recettes qui ne viennent pas pour rentabiliser le film. Et puis, il faut savoir que M. Besson, comme je le disais depuis le début, veut faire du film à l'international, mais en même temps veut récupérer les sous du cinéma français. Alors, pourquoi pas ? Il s'est donc adressé au Centre National du Cinéma, ce qu'on appelle plus couramment le CNC, pour récupérer les sous du crédit d'impôt. Il faut savoir qu'il avait fait un gros lobbying, hein, Monsieur Besson, pour rendre éligible au crédit d'impôt les films comme Valérian, c'est-à-dire des films tournés en partie en France, réalisés en langue anglaise, mais qui cherchent à avoir donc les crédits d'impôt en France. Alors c'était à l'époque Flore Pellerin, qui était ministre de la Culture, qui avait réagi face à la montée au créneau de Monsieur Besson, qui avait élargi les conditions d'accès au crédit d'impôt. Et aujourd'hui, le crédit d'impôt est accordé à certaines œuvres en langue étrangère à forte dimension culturelle impliquant l'usage de cette langue pour des raisons artistiques ainsi que pour certaines productions d'animation ou à fort effet visuel. Bon, on n'est pas sûr que Valérian rentre dans la case, et bah pourtant...
Non, parce que pour des raisons artistiques, vu que la BD est en français, ça aurait été assez logique.
Mais pourtant, il y a eu droit, puisque là, c'est 20% des dépenses éligibles lorsque l'œuvre est réalisée en langue étrangère, c'est 30%. Hein, sinon, pour les autres œuvres cinématographique réalisé en partie ou entièrement en français, c'est plafonné à 30 millions d'euros. Hein. Donc je crois que lui, il a eu entre 10-15 millions, quand même, c'est pas mal. Pour son film, le CNC a d'ailleurs fait valoir son bon droit le 25 juillet dernier avec un beau communiqué pour nous expliquer que le crédit d'impôt, ça fait rester les films en France. Puisque je vous avais parlé de ça il y a quelques temps, il y a une vraie bagarre avec la Belgique, entre autres, pour savoir qui va récupérer les tournages. Et là, M. Besson a fait savoir que si jamais on lui donnait pas le crédit d'impôt, il irait en Hongrie. Et que donc, il irait là où c'est le moins cher pour faire des économies, mais que si on lui faisait cette faveur-là, alors il resterait en France, mais avec une partie, hein, puisque les effets visuels ont été faits aux États-Unis d'Amérique auprès de la boîte de Lucas, et puis sinon en Nouvelle-Zélande, j'ai mangé son nom avec Peter Jackson, je cherche sa boîte d'effets spéciaux. Donc certes, on pourrait penser que les pertes restent partielles pour Europa Corp, puisque le studio avait refinancé le budget de Valérian auprès de distributeurs, de chaînes télévision. Et puis, je vous le disais, il y a Fundamental, qui est donc cette structure chinoise, cette boîte chinoise, qui a investi beaucoup dans le studio, puis qui a investi beaucoup dans le film. Il y a un partenariat qui est en place sur un certain nombre de films. Sauf que ça suffit pas. Pourquoi ? Parce que fin juin, Europa Corp a annoncé un déficit assez historique pour l'année fiscale 2016-2017, année qui s'est terminée le 31 mars dernier. 119 millions, pratiquement 120 millions de déficit pour un chiffre d'affaires de 151 millions. Ouais, tu peux faire cette tête-là, il a haussé les sourcils. Il faut dire que Europa Corp s'est un peu planté avec un certain nombre de films en langue anglaise. Miss Sloane, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'est pris une claque artistique, n'a pas fonctionné du tout. Mamicha n'a pas du tout fonctionné. The Circle, avec pourtant Emma Watson et Tom Hanks, n'a pas non plus fonctionné. Donc il n'y a pas une rentabilité sur ces films. Moi, j'ajouterais que quand même Luc Besson sur Valérian, il est scénariste, réalisateur, producteur. Il touche plus de 5 millions d'euros.
Donc, c'est lui qui a le plus gros salaire.
Peut-être, enfin le plus gros revenu sur l'affaire. Peut-être que s'il avait vu un peu plus bas ça aussi, ça aurait peut-être permis d'éponger un peu les choses. Bon, en fait non, ça aurait rien épongé, mais ça aurait peut-être un petit peu aidé. Le groupe chinois Fundamental a déjà injecté 60 millions d'euros en septembre dernier pour essayer de revaloriser la chose. Parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas très longtemps,
Il y a eu, vous savez, cette série de films qui s'appelle Arthur et les Minimois. Le film Les Minimoys, oui, pardon, excusez-moi, qui n'avait pas marché à l'international et c'était déjà un énorme film à l'animation. Et les pertes avaient été 30 millions d'euros à l'époque. Là, il paraît que pour rentabiliser le film, il faudrait 400 millions, donc il n'est pas prêt d'avoir des suites. Pourtant, Luc Besson a dit qu'il avait prévu deux suites.
Ouais, parce qu'il y a du potentiel au niveau de la BD.
Ouais, mais là, a priori, pour l'instant, le film, on en est qu'à 212 millions de dollars. Alors, vous allez me dire, oui, il va y avoir les ventes de DVD, tout ça, tout ça. Mais ça marchera pas, parce qu'on n'est pas seul quand on fait un film. On a des partenaires, et pour l'instant, les partenaires, ils sont pas très contents. Et puis surtout, qu'on a une structure qui est en train de se casser la figure. Il y a un coursier en bourse, puisque Robacorp est en bourse, qui suit cette Robacorp. Ça s'appelle Gilbert Dupont, la société Le Coursier. Mardi, la recommandation, elle est passée de acheter à aller. Allégé, ça veut dire fuyez, vendez. Donc le groupe est vraiment en train de se casser la figure. Aujourd'hui, l'action, elle vaut 2,50 €, excusez-moi. À l'époque, c'était 14 ou 15 euros, donc ça vaut vraiment plus rien, Europacorp. 40% de pertes en bourse depuis la sortie de Valériane, donc au mois de juillet. La grande question aujourd'hui, c'est quel avenir a la société de Luc Besson? Il y a un petit truc qui, là, en plus, se fait un peu grincer des dents, parce qu'il y a eu beaucoup de changements à la tête de cette entreprise, de cette multinationale, limite. Et là, il y a Édouard de Vézine, le directeur général délégué, qui s'est fait virer avec effet immédiat. Donc, c'est certainement lié à l'échec de Valérian. Pourtant, on peut penser que M. Besson, quand même, a la tête un petit peu de tout ça. Mais voilà, la vraie question est de savoir, est-ce que M. Besson va pouvoir garder son bébé? C'est mal barré. Ça fait maintenant longtemps que les studios, cette société de production et diffusion, n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Après, et se plante régulièrement.
Voilà, il est assez fort, hein, pour faire du chantage, pour les récupérer de l'argent, tout ça. Donc,
Bon, je suis allée assez vite parce qu'on est en fin de Canu Info. Il y a beaucoup à en dire, mais c'est aussi toute une histoire du cinéma et de l'industrie du cinéma. Il ne faut jamais oublier que le cinéma, c'est une industrie et que derrière, on n'est pas tout seul. Vous n'avez pas juste un gentil réalisateur ou une réalisatrice toute mignonne ou tout mignon qui viennent vous vendre un film. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent, c'est beaucoup d'investissements, des crédits d'impôt, des subventions, et que les États prennent des initiatives pour soutenir ou non cette industrie, et que ben parfois cette industrie elle se plante, et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec cette entreprise de Monsieur Besson. Voilà, la grande question, est-ce que ça va être recapitalisé ou est-ce que ça pourrait être acheté par d'autres gens?
Alors j'ai deux petites informations pour moi terminer ma partie dans ce Canu Info. La première, c'est comme d'habitude les vœux des échevins à Lyon, donc une tradition qui a lieu chaque année, je crois c'est en septembre, depuis 1643. C'est l'église catholique lyonnaise qui reçoit les élus. C'est une sorte de partage de pouvoir ou de reconnaissance de pouvoir entre l'église catholique lyonnaise et les dirigeants lyonnais, hein, parce que ça datait d'avant la démocratie. C'est honteux, hein, de voir des politiques aller servir la soupe à ces religieux, notamment au cardinal Barbarin. On rappelle, hein, qu'il a très peu condamné et beaucoup soutenu certains prêtres pédophiles. Même en dehors de tout ça, c'est la séparation de l'Église et de l'État ne semble pas avoir intégré ni Barbarin ni les élus lyonnais, puisque c'est Georges Kipenekian, qui est le nouveau maire de Lyon, qui sera demain à cette cérémonie des vœux des échevins, mais peut-être aussi Gérard Collomb. Hein, alors là, il est pris un peu par les problèmes climatiques, mais normalement, il a prévu d'être là. Alors, il y a une réaction, une mobilisation, une petite manifestation pour dénoncer l'intrusion du religieux dans la vie publique, intrusion qui a toujours été très forte à Lyon, hein, malheureusement. Donc vendredi, c'est demain, à 17h, sur l'esplanade de Fourvière, c'est appelé par toutes les forces laïques, le cercle Maurice Allard, des gens comme ça, pour dire la religion, ça doit sortir du pouvoir, sortir des instances de dirigeants, de direction. Et ben c'est pas gagné non plus vu la tradition lyonnaise de collaboration avec les religions et notamment là du coup avec les cathos. Un petit mot sur la loi sur les hydrocarbures qui a été présentée hier au Conseil des ministres par Nicolas Hulot. Donc ils ont voulu une loi très très forte qui interdit définitivement l'exploitation des hydrocarbures dits non conventionnels, notamment les gaz de schiste. Par contre, il y a des ambiguïtés, voire des choses qui sont cachées, notamment sur le gaz de couche. allez me dire, c'est quoi ce truc, le gaz de couche? C'est du méthane qui est présent dans les couches de charbon, qui est pour l'instant pas exploité, et il y aurait du potentiel. Il y a une entreprise en France qui s'appelle aujourd'hui la Française de l'énergie, qui dispose de plusieurs permis de recherche, notamment en Lorraine, sur ces gaz de couche. Bon, c'est des hydrocarbures. Alors, comme le dit une militante, il n'y a pas d'hydrocarbures non conventionnels. C'est des hydrocarbures, par contre, leur exploitation, elle se fait de manière irrationnelle. Non conventionnelle, je veux dire pas irrationnelle, de manière non conventionnelle, c'est-à-dire avec injection. Alors, c'est un peu comme la fracturation hydraulique, hein, c'est injection de millions de litres d'eau avec plein de produits chimiques pour essayer de récupérer ces fameux gaz qui se trouve dans les veines de charbon. On en a dans certaines régions. Donc voilà, la loi est pas claire. C'est dommage. Ça parlait d'une bonne idée, hein, cette loi. La copie est à revoir. Hein. La loi a été présentée. Pas mal de mouvements de défense de l'environnement ont réagi, ont fait part de leur inquiétude. On peut espérer que quand la loi sera votée, la forme définitive sera plus claire sur tout. Les formes d'hydrocarbures dont l'exploitation devrait être interdite en France pour sortir de ce monde carboné plein de pollution et d'émissions de CO2.
Oui, juste pour dire, belle grève aujourd'hui à Radio France, France Inter et France Culture touchés, puisque c'était 4 techniciens qui sont soutenus par leurs camarades, qui se sont donc une belle grève pour demander à ce que ces techniciens soient reconnus comme d'autres techniciens du groupe avec les mêmes évolutions de salaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui aujourd'hui ont des fonctions qui dépassent les postes qui étaient prévus. Et en fait, il n'y a pas de salaire. C'est-à-dire que finalement, on ne reconnaît pas ce travail supplémentaire. Donc, il y a eu une grève à l'appel d'une organisation syndicale, comme le dit le communiqué de Radio France. Il s'agit donc de la CGT. la CGT de Radio France qui a appelé. Alors, ce qui était marrant, c'est que je dis une belle grève parce que au début, on avait eu donc l'annonce de ce qui allait se passer sur France Inter, par exemple. Et on nous avait expliqué que donc, il y aurait telle émission qui ne serait pas présente, telle autre qui le serait, telle autre qui ne le serait pas, et ainsi de suite. Bon, en fait, il y a eu beaucoup plus d'émissions qui ont été touchées. Ça a été une très belle journée de musique. D'ailleurs, comme le dit la fin du communiqué de Radio France, retrouvez la liste des titres diffusés sur France Inter ce jeudi 7 septembre, c'est-à-dire la partie musicale, en fait, vous allez avoir droit à avoir la playlist bien expliquée, parce qu'en fait, à part quelques moments où vous avez eu les journaux, il y a eu de la musique. Donc ça, c'est une grève qui fonctionne. Et à un moment, je pense qu'en fait, les gens en ont marre de Mathieu Gallet, ce jeune loup aux dents très très longues qui racle le plancher et qui se moque un petit peu des demandes de ses salariés et de ses équipes, qui se moquent vraiment profondément de ce qui se passe et de la souffrance au travail et de la non-reconnaissance du travail qui est fourni par ses équipes. Ce qui fait que Mathieu Gallet se prend un peu une belle grève de rentrée dans la face. On était bien contents. Parce que nous, on soutient toujours.
C'est la fin de ce Canu Info. En agenda, on vous rappelle la mobilisation à l'appel de la CGT, suivie par d'autres syndicats comme Solidaires, la CNT. Contre les ordonnances, la nouvelle forme de la loi travail.
Ouais, enfin, contre Macron, parce qu'il nous emmerde, et que Macron. De toute façon, c'est bien que c'est que le début.
Et c'est donc à la manufacture des tabacs, 11h30, mardi.
Ça avait intérêt à vous venir, parce que sinon, bien vous cherchez chez vous, là-bas, vous cassez les genoux. Non, vous faites comme vous pouvez, on sait bien que parfois c'est difficile avec le travail. Mais enfin, en tout cas, restez pas chez vous à glandouiller si vous faites rien, quoi.
Et donc, rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, pour le prochain Canu Info du jeudi et demain pour le Canu Info du vendredi.
Ciao, ciao.